Alors, frères et sœurs, nous allons prendre le message, mais avant, je vais chanter avec ceux qui se souviennent. Je cherche un homme. Donc, quand je chante ce chant, j'entends, j'ai les voix de Philippe, de Marie-Madeleine qui résonnent, parce que, voilà, sur la cassette, ça se trouve enregistré avec le groupe et on a porté ce message ensemble. Et ce message, eh bien, je pense qu'il est grand temps de le réaffirmer. Dieu cherche un homme. Alors, ça reste vrai. Ça reste et c'est de plus en plus et ça va devenir de plus en plus vrai. En sachant qu'il n'en a pas trouvé. Mais à la fin, il y en a un qui s'est levé, bien sûr. Voici l'homme dans l'évangile. Et le message que je porte, que je vous apporte ce matin et qui se poursuivra dans les semaines, les mois qui viennent. Je crois que c'est celui-là. Cet homme que Dieu cherche pour son service. Le message que j'ai pris aujourd'hui s'intitule « La solitude du serviteur de Dieu ». Alors, chantons d'abord « Je cherche un homme ». Je cherche un homme, je cherche un homme capable d'élever un mur, un homme qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, en faveur du pays, en faveur du pays, en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas, que je ne le détruise pas. Ah, mais je n'en trouve pas, mais je n'en trouve pas, mais je n'en trouve pas. Je cherche un homme, je cherche un homme. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de justice. La vérité a disparu sur la face de la terre. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Je vois qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne car personne n'intercède. Je cherche un homme, je cherche un homme, mais je n'en trouve pas, mais je n'en trouve pas, mais je n'en trouve pas. Je cherche un homme. Alors son bras lui vient en aide, sa justice lui sert d'appui. Voici, j'ai dit, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Voici, j'ai dit, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Voici l'homme, voici l'homme. Ces paroles ne sont pas les miennes. Ce sont les paroles de l'Écriture. Je pense que dans ce chant, il n'y a pas une seule parole autre que celle des prophètes, que celle de l'Évangile, finalement. L'homme que Dieu cherche, l'homme qui peut s'opposer à tout le mal, à toute la dépravation, à toute l'injustice, à toute l'indignité qui se manifeste dans ce monde. Alors la solitude du serviteur de Dieu. Être seul, parler de la solitude, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la solitude parce qu'il peut y avoir une solitude après tout plaisante, celle qui est choisie dans des moments très particuliers de nos vies où l'on se plaît à être seul. Mais il y a cette solitude difficile lorsque s'abat un esprit de dépression sur l'homme, la femme. Et puis il y a cette solitude très particulière quand il s'agit d'assumer une charge, de transmettre une connaissance, de s'opposer à un méfait et être le seul à pouvoir le faire, à devoir le faire. Et dans le service de Dieu, la solitude est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire. Alors en introduction, eh bien, il faut d'abord rappeler que le monde a été créé dans une parfaite solitude. Dieu était seul au commencement. Et il rappelle par son prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 24, « Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Quand Job s'est posé toutes sortes de questions et a contesté avec Dieu, eh bien, à un moment donné, Dieu lui dit, « Mais Job, où étais-tu quand je fondais la terre ?» Et même au chapitre 9, verset 8, il y a même un présent. Seul il étend les cieux, encore au présent. Et d'ailleurs, ça me rappelle une autre parole, le Seigneur, aujourd'hui encore, soutient toute chose par sa parole puissante. C'est lui seul qui assume tout de la création. Et puis, il y a l'aspect du salut de l'homme, puisque l'homme est tombé dans le péché. Comment est intervenu le salut? Comment est-ce qu'il a été préparé? Comment est-ce qu'il a été réalisé? Et ensuite, comment il a été prêché? Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Pour la création, mais aussi pour le salut. Dans Éphésiens 1, versets 9 et 10, « Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. » Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, sans avoir à ses côtés un conseiller, quelqu'un qui participe à cette délibération concernant le salut. Ça semble peut-être évident pour plusieurs, mais il y a actuellement un retour de la pensée païenne qui rend nécessaire ce rappel. La création n'est pas plus le produit du hasard, ce que les rationalistes essaient d'imposer comme idée, que le résultat d'une suite de concertations, en quelque sorte, entre les dieux. Ça, c'est une pensée païenne. Les dieux discutent et travaillent ensemble, en quelque sorte. Mais les divinités ne possèdent pas la clé du passé, du présent et de l'avenir éternel des hommes. Et l'humain n'a rien à revendiquer dans la réalisation de son salut. Il reçoit tout par grâce de la part du Dieu éternel qui l'a créé. En quelque sorte, je dirais que l'homme n'est pas une poussière d'étoiles qui continuerait à communiquer avec le monde céleste d'où il viendrait, et puis les choses se passeraient entre l'homme et les dieux ou les esprits. Et puis, ça permettrait à l'homme de prendre un chemin de réalisation de soi qui le conduirait finalement jusqu'à la vie éternelle. Mais l'homme ne reçoit en fait jamais la possibilité d'être en haut, en bas et sur les côtés. Ça ne lui est pas possible. D'ailleurs, les chapitres 40 à 46 du prophète Ésaïe établissent clairement la distinction entre le Dieu qui fait et qui annonce toute chose vraie, et les dieux et prophètes des peuples, dont il est dit, chapitre 41, verset 29, « Voici, ils ne sont que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. » Attention, c'est dans un contexte où les gens croyaient aux divinités, pratiquaient des magies, des invocations, etc. Alors, la conclusion de cette introduction, eh bien, elle se trouve dans l'Épître à Timothée, chapitre 1, verset 5, verset 5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà, pour introduire ce sujet de la solitude du serviteur de Dieu. Car ce qui nous concerne maintenant, c'est comment être nous-mêmes au sein de ce monde, de ceux qui parlent et qui révèlent ce Dieu unique, ce Dieu qui n'a besoin de personne et ce Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, selon son propre conseil et sans aucun soutien autour de lui. Alors, j'ai trois étapes dans ce message. Bien, c'est ce qui s'est passé dans la préparation du salut. Deuxièmement, la réalisation du salut. Et enfin, dans la prédication du salut. Constamment, nous voyons des hommes, des serviteurs dans la solitude. Pour sauver, se révéler et transmettre sa parole, Dieu n'a pas choisi des groupes d'hommes, mais des personnes, des individus qui ont dû assumer le message et sa transmission. Alors bien sûr, c'est rempli toute l'écriture, les exemples sont trop nombreux. Donc je vais me limiter à trois exemples: Noé, Moïse et Élie. Noé, seul juste et intègre dans sa génération, Genèse au chapitre 6. Hein. Je vais quand même le prendre, tout ce chapitre 6 de la Genèse où est révélée la corruption qui s'était installée. Et au verset 8, nous voyons: « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi. » Car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, etc. Et au verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Avec quel concours? Puisqu'il est dit par Pierre, donc dans sa première épître, que du temps de la patience de Dieu, les hommes, les esprits demeuraient incrédules. Et dans la deuxième épître, Pierre appelle même Noé prédicateur de la justice. Ça veut dire qu'il était là à se confronter à cette génération et à leur dire la justice de Dieu qui allait intervenir. Mais à part ses trois fils, Noé n'avait personne pour le croire et collaborer avec lui. Si quelqu'un avait collaboré à la construction de l'arche, il serait certainement entré. Alors il y a une chose terrible à considérer. Ce sont les frères et sœurs de Noé. Ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces. Car si nous remontons un peu plus haut, Lémec, le père de Noé, après avoir donné naissance à Noé, engendra des fils et des filles. Ça veut dire qu'il y avait toute une famille élargie qui était là, et l'humanité à cette époque-là était quand même encore une grande famille qui était assez resserré, on peut dire, assez dense dans sa composition et dans sa géographie certainement encore. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces de Noé. Personne n'était avec lui pour entendre la voix de Dieu, pour participer au salut, pour se sauver eux-mêmes et, d'une manière, certaine manière, sauver l'humanité. Noé était le seul, il a dû agir seul, prendre toute l'initiative de travailler au salut de sa famille, face à une société qui certainement se moquait de sa foi. Moïse, Exode chapitre 3, c'est la rencontre absolue que fait Moïse au buisson ardent avec cette parole qui lui est donnée, verset 14 du chapitre
chapitre 3 de l'Exode. Verset 13, je prends Moïse, dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Moïse a rencontré Dieu dans ce buisson ardent. Il a reçu la révélation de son nom et il a été chargé d'aller délivrer le peuple. À partir de ce moment-là, c'est un conflit absolu avec le prince de ce monde qui s'est mis en place pour la délivrance du peuple de Dieu. Alors Moïse confesse sa faiblesse humaine et à cause de cette faiblesse humaine, et l'immensité de la tâche, c'était quelque chose d'absolument énorme d'aller au-devant de cette puissance du Pharaon pour obtenir la délivrance du peuple d'Israël. Alors à cause de la faiblesse humaine, eh bien Dieu en a tenu compte en accordant un aide à celui qu'il a choisi, c'est-à-dire Aaron, frère de Moïse. Mais le médiateur de l'œuvre de Dieu, c'était Moïse. Il tenait la place de Dieu, d'ailleurs, face à Pharaon. Il tenait la place de Dieu et Aaron était son porte-parole. Personne pour aider Moïse. Personne pour le soutenir. Et même le peuple qu'il était chargé d'aller délivrer, les responsables de ce peuple n'y croyaient pas. Et ils se sont plutôt opposés à Moïse. Et à chaque fois, c'était des contestations. Pourquoi est-ce que tu nous fais cela? Pourquoi? Et Moïse retournait vers Dieu. Et recevez de Dieu lui-même la réponse, la prochaine action à faire, jusqu'à ce que la puissance du Pharaon d'Égypte soit brisée. Mais ensuite, l'affaire n'était pas terminée et Moïse s'est retrouvé bien seul face à ce peuple qui continuait à être ignorant et incrédule. Et il a dû, pendant 40 ans, assumer d'enseigner, de conduire, de reprendre, d'instruire ce peuple. Et il n'y avait personne pour l'aider. Moïse était seul avec son Dieu qui lui donnait la parole, qui lui a bien sûr donné la révélation de la loi, mais qui à chaque étape répondait aux besoins. Et Moïse, avec Aaron quand même, à certains moments, vraiment s'effondrait devant Dieu, le suppliait, intervenait, intercédait pour pouvoir apporter la bonne réponse, avoir le bon engagement, la bonne attitude au bon moment. Tout cela, Moïse devait l'assumer seul. Alors la vie sociale a été finalement organisée avec des hommes à différents niveaux de responsabilité, hein, Exode 18. Mais pour ce qui concerne la révélation de la parole de Dieu et sa divulgation pour la marche dans l'obéissance, Moïse était seul. Et même Aaron, à plusieurs reprises, a fait faux bond, en quelque sorte. Donc cette solitude, en fait, et le scrupule qu'avait Moïse à constamment retourner vers Dieu pour demander à Dieu la marche à suivre ont permis que toutes les étapes de la marche d'Israël au désert et l'organisation de son culte soient investies d'un sens prophétique qui concerne le salut de tous les hommes. Élie. Le prophète Élie intervient quand l'anarchie spirituelle s'est installée en Israël. Totale anarchie. Les idoles et leurs prêtres ont remplacé l'obéissance à l'Éternel et ils sont soutenus à la tête de l'État par une femme corrompue, Jézabel, l'épouse du roi qui a le contrôle sur lui, une femme profondément païenne, et la confrontation sera terrible. Élie sera seul pour avertir et exercer le jugement sur les faux prophètes. Alors, dans le feu de l'action, à un moment donné, on voit qu'il obtient le concours du peuple, mais ensuite il est seul à encourir la fureur de Jézabel. Obligé de s'enfuir, il a une rencontre singulière avec Dieu au rocher d'Horeb, devant lequel il plaide « Ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Entre-temps, pour arriver jusqu'à Horeb, Dieu avait pris soin de lui, il lui avait permis de dormir, il l'avait nourri. Hein. Mais quand même, il a fait ce constat et il doit déclarer devant Dieu, « Je suis resté moi seul et maintenant ma vie est menacée. » Et Dieu donc va faire passer sur lui toute sa présence, sa douce présence. Il va le rassurer. Et puis aussi, il va le rassurer en lui affirmant qu'il y a en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y avait le prophète au combat, mais il y avait quand même parmi le peuple 7000 hommes qui n'avaient pas, qui ne s'est pas laissé corrompre spirituellement. Alors, frères et sœurs, vous n'êtes probablement pas chargés de faire l'œuvre des grands prophètes dont la vie est menacée, systématiquement la vie des prophètes est menacée. Impossible d'être prophète sans être menacé. Et il en faut, cependant. Et pourquoi Dieu n'en susciterait-il pas parmi vous? Mais même si vous n'êtes pas ce prophète, vous pouvez être parmi les 7000 qui tiennent bon dans le quotidien. Et alors vous connaîtrez aussi ces temps de solitude. Parce que 7000 parmi tout un peuple, elles sont quand même un peu perdues dans la foule. Et vous aussi, vous pouvez vous retrouver un peu perdu dans toute cette société et ces groupes qui vous entourent et ces amis qui vous connaissent mais qui ne vous connaissent pas vraiment, etc. Donc voilà, Noé, Moïse, Élie n'avaient personne sur qui s'appuyer pour tenir ferme face à l'incrédulité, face à la désertion, face à l'incurie du peuple et des ennemis particulièrement. Maintenant, eh bien, nous arrivons à la réalisation du salut. C'est-à-dire la solitude de Jésus-Christ lui-même. Mais avant Jésus, il y a Jean-Baptiste, le précurseur ne tenait pas son message des hommes. De lui, il est dit, Luc chapitre 1, verset 80, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » On voit Jean-Baptiste qui, dès son enfance, se prépare dans la solitude. Jean était devant Dieu durant tout ce temps de préparation. Ensuite, au temps marqué, il a assumé seul la prédication reçue de Dieu. Je lis dans Luc chapitre 3, versets 2 et 3. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Il était préparé, et dès l'instant où la parole lui a été adressée, il est allé, il a prêché, il a baptisé au nom du Seigneur. Alors des disciples ont rejoint Jean, mais aucun ne se serait avisé de modérer le prophète lorsqu'il s'en est pris à la mauvaise conduite du roi Hérode, ce qui lui a valu d'être mis en prison et finalement d'être décapité par l'influence de cette mauvaise femme Hérodias. Vous connaissez les passages de l'Évangile. Et puis voilà, notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qu'il a tout assumé tout seul. Seul d'abord au désert, pendant 40 jours dans la solitude, pour finalement être tenté par le diable, sans autre recours que la connaissance de la parole de son Père. Il a résisté au diable par cette parole qu'il avait en lui. Il est écrit. Et il était seul. Il ne pouvait pas aller consulter à ce moment-là un rabbin, un docteur de la loi, pour lui demander que répondre. Le Seigneur a tenu ferme, il a résisté au diable et c'est alors qu'il a commencé ce ministère fructueux, rempli du Saint-Esprit. Il a rallié des disciples et les choses étaient exaltantes parfois avec toute la foule qui l'entourait. 3 années de ministère, mais qui ont aussi éprouvé la patience du Seigneur qui faisait face à l'opposition radicale, mais aussi aux lacunes de ses disciples qu'il devait reprendre et instruire en permanence parce qu'il ne comprenait pas l'œuvre de Dieu. Il était entouré, c'est vrai, soutenu par quelques vrais croyants, hommes et femmes, On peut dire vraiment gloire à Dieu, amen. Et j'espère que nous aurions été de ceux-là, et je pense que vous auriez été de ceux-là qui entouraient le Seigneur, qui le soutenaient de leur bien, etc. Il le dit, vous avez à ses disciples, hein, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc effectivement, vous auriez vous aussi pu persévérer avec le Seigneur dans ses épreuves, le soutenir, aller avec lui. Par contre, au moment de l'épreuve suprême, vous n'auriez pas agi différemment de ceux qui ont vécu la situation. Le Seigneur les avait prévenus, Jean chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Cela s'est vérifié, bien sûr. Mais nous avons là le secret de Jésus pour aller jusqu'au bout, pour assumer seul sa mission dans ce monde. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et s'il y a quelque chose qui doit nous soutenir nous-mêmes, c'est cette pensée, cette assurance que Dieu est avec nous lorsqu'il nous demande d'agir en son nom, de nous engager, d'assumer un ministère. Nous y reviendrons. Mais le Seigneur, donc, n'avait vraiment, à ce moment-là, aucun appui humain. Mais le Père, qui était là, le Père qu'il peut encore prier à Gethsémané jusqu'à l'agonie, alors que ses disciples sont endormis. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Il s'est soumis jusqu'au bout à la volonté du Père qu'il aurait voulu infléchir. Mais tout s'est joué dans cette relation qu'il avait avec son Père. Et même à la croix, il peut encore à deux reprises prier son Père qu'il sait à l'écoute. D'abord, cette première parole qui doit certainement être la première qu'il dit en étant crucifié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis finalement, la dernière, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors les quatre évangiles donnent au total 7 paroles de Jésus sur la croix, dont une qui peut sembler contradictoire avec l'annonce avec l'assurance que le Fils a de l'écoute de son Père, puisque au milieu des ténèbres, à un moment donné, Jésus s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne dit pas « mon Père », il dit « mon Dieu ». Je pense que la nuance est importante, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, c'est au cœur des ténèbres. Hein. Il y a eu des ténèbres, dit l'évangile selon Matthieu 27, verset 46. Je vais reprendre exactement. Au 45, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est après ces trois heures de ténèbres, alors qu'il est plongé au cœur de la détresse, de la souffrance, parce qu'il porte le péché des hommes, que Jésus a cette parole, qui en fait est une citation du psaume 22, mais pas une citation au cœur du psaume 22. La citation de la première parole du psaume 22. Psaume 22 qui décrit avec beaucoup de précision l'événement et les acteurs de la croix. Je dirais que ce n'était pas le moment de citer dans son entier ce psaume de la part de Jésus, mais de n'en citer que l'introduction, c'était déjà citer le psaume, en fait, dans sa totalité. Je peux dire que même s'il ne citait que la première phrase, ce qui se vivait, la scène qui était en train de se dérouler, c'était la suite, c'était du psaume. Donc c'est le psaume complet, en fait, qui était en train de se jouer là, à ce moment. Les paroles du psaume, si Jésus les avait prononcées, auraient collé à la réalité. Et cela va jusqu'à la victoire, ce psaume, jusqu'à la victoire sur la mort et la célébration de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en citant cette première parole du psaume 22, Jésus proclame ce qui est en train de se produire pour le salut du monde et de toutes les nations de la terre. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, tout comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, ou bien encore le psaume 69, verset 22, le juste portait le péché de ses frères, et Dieu ne pouvait pas intervenir pour changer cette épreuve suprême. Il fallait que le Fils de l'homme soit abandonné parce qu'il portait le péché du monde. Retenons cela, que Jésus était seul pour cette rédemption, pour assumer de donner sa vie en sacrifice pour le péché. Alors Dieu voulant, j'apporterai la suite de ce message le premier de l'an 2023. Par la grâce de Dieu. Et le premier de l'an 2023, eh bien, nous entamerons une période qui est déjà engagée, où les enfants de Dieu devront assumer leur solitude. C'est une évidence. Quand on voit tout le déferlement d'opposition à la foi et à la pensée chrétienne, nous aurons vraiment à nous encourager à tenir bon, tenir ferme par rapport à notre Seigneur devant le monde incrédule. Amen.